Partie 4. Pour le plaisir. Sport, loisirs et divertissement. Dans cette partie, notre société de loisirs se doit de mériter son nom. Jamais de toute l'histoire de l'humanité, les hommes des sociétés développées n'auront bénéficié d'autant de temps et de moyens pour se divertir que depuis un demi-siècle. Plaisir du corps, tout d'abord. Pendant la Belle Époque, au tournant du XIXe et du XXe siècle, le corps sportif acquiert ses droits et son honorabilité. Le sport devient un art noble pratiqué de manière désintéressée, avec l'idée de remettre au goût du jour la tradition grecque d'un esprit sain dans un corps sain. Nous allons revivre cette période exaltante de la renaissance de l'olympisme, de l'apparition du football, du rugby, puis de la multiplication des compétitions, de l'enivrement du Tour de France cycliste au bal lifté de Roland-Garros. Grandes heures et grandes figures du sport sont au rendez-vous pour partager la sueur, les larmes et les lauriers. Se divertir, avons-nous dit, certes, mais au sens noble, pascalien du terme, c'est-à-dire offrir à l'esprit une occupation de choix. C'est ce que permet le septième art, et nous allons suivre passionnément cette aventure moderne des frères Lumière au panache des Oscars. Le théâtre fait également partie des plaisirs spirituels de notre culture. Des origines, au théâtre Forum, enjeu de société, nous allons brûler les planches. Retrouvez ici, sans complexe, les stars, les vedettes d'autrefois, les acteurs d'aujourd'hui sur grand écran, en couleur ou sur scène. N'entendez-vous pas à présent cette magie dans l'air? Ces notes cristallines. Mais c'est Mozart, et avec lui toute la magie de l'opéra. Quel diva, quel ténor se cache en vous! Apprenez-le en parcourant la gamme des voix, de celle des anges, pourtant longtemps interdite aux femmes sur scène, jusqu'aux basses ténébreuses de la Russie éternelle. Aspiré par la musique, volé de festival en festival, de Bayreuth à Salzbourg, pour des heures inoubliables de volupté. Ça y est, vous voilà épuisé. Rien ne vaut alors le calme divan devant une bonne émission de télévision. Au fait, depuis quand existe-t-elle? Vous en souvenez-vous? Laissons la nostalgie agir, des émissions phares aux séries cultes. Puis, muscles saillants, tête pleine d'images et de sons, retournons cultiver notre jardin. Chapitre 13. Un peu d'exercice. Le sport. Dans ce chapitre, une brève histoire du sport. Les grandes compétitions. Dès les temps les plus anciens, l'activité physique fait partie du quotidien. Le sport se définit d'une façon générale comme la pratique d'activités physiques dépendantes de règles et de réglementations. Les statistiques les plus récentes ont montré qu'au moins une fois par semaine, 26 millions de personnes pratiquent une activité physique en France. Le sport des origines à nos jours. Le mot « sport » n'apparaît dans notre langue qu'au XVIIIe siècle, mais le terme viendrait de l'ancien français « desport ». Apparu au XIIIe siècle, qui désignait alors l'ensemble des moyens par lesquels on passait le temps agréablement, comme la conversation, les distractions, le badinage, les jeux. On l'employait aussi au sens de s'amuser. Quand le mot passe en anglais au début du XIVe siècle, il conserve ce sens d'amusement. Les premiers sportifs anglais amateurs sont des nobles qui s'adonnent aux jeux ou aux exercices seyant à leur position sociale. Puis la pratique sportive se démocratise et se professionnalise avec le temps, suscitant des compétitions mondialisées et exacerbant les sentiments passionnés. À vos marques. Le sport dans l'Antiquité. C'est aux athlètes grecs puis romains que nous devons l'habitude de pratiquer des activités physiques dans des lieux spécialisés, sous l'autorité de professeurs ou avec l'aide de spécialistes. Ces athlètes de l'Antiquité sont également à l'origine directe de ce que fut au XIXe siècle la gymnastique suédoise, à portée thérapeutique. Les soins du corps, les bains se retrouvent d'ailleurs encore dans nombre de nos établissements faisant commerce de la gymnastique et de l'aspect corporel, où les salles équipées sont complétées par des piscines, des saunas, des jacuzzis qui sont des lieux de détente et de convivialité. Un esprit sain dans un corps sain. Dans le monde gréco-romain, l'éducation est avant tout affaire de pratique physique, à laquelle le jeune grec s'exerce nu, sur un terrain de sport, au gymnase ou au stade. Devenir un individu civilisé, adopter les normes d'hygiène, d'éthique et d'esthétique du groupe se fait par l'éducation physique. Celle-ci fait pleinement partie d'une éducation générale, soucieuse de s'adresser à l'homme tout entier, corps et âme. C'est l'objectif d'accomplissement contenu dans le fameux adage grec « un esprit sain dans un corps sain ». Le sport, en tant qu'élément central de l'éducation de tout futur citoyen, est donc pratiqué par tous, filles et garçons, et pas seulement à Sparte, mais également à Athènes ou à Pergame. L'enseignement de la gymnastique y est confié au pédotribe, à la fois maître de gymnastique, professeur d'hygiène, de médecine du sport et dispensateur d'éthique du comportement sportif. Il se charge de faire exécuter aux élèves des exercices d'assouplissement, de course, de sautillement, des jeux de balles, etc., pour les préparer à la pratique sportive proprement dite. Le but est de permettre à l'adolescent de prendre part plus tard au concours d'athlétisme essentiellement. Les autres disciplines, en effet, la natation par exemple, sont connues et pratiquées par les Grecs, mais ne leur semblent pas dignes de figurer dans les concours. Les épreuves reines définissent le cycle complet de l'athlète. Ce sont la course à pied, le saut, le lancer du disque, le lancer du javelot, la lutte, le pentathlon, le pugilat, le pancrace, qui est un mélange de lutte et de pugilat. Le gymnase est l'endroit réservé aux exercices physiques. Chaque ville en possédait plusieurs. Il s'agissait en général d'un rectangle de la taille d'un stade, entouré de portiques et de pièces adjacentes. À l'origine, l'exercice dans les gymnases était réservé aux jeunes gens qui allaient effectuer leur service militaire pendant les 2 années qui précédaient cette éphébie. Mais à l'intérieur des gymnases pouvaient être enseignés également la grammaire et la littérature. Athènes possédait par exemple 3 gymnases, l'Académie, le Lycée, le Cynosarge. À Rome, les jeunes gens s'entraînent au Champ de Mars, mais à la différence des Grecs, sans autre finalité que l'efficacité au combat et sans tenir compte d'une quelconque esthétique. Il s'agit de se préparer aux situations de guerre, sauter, lancer le javelot, courir, nager, monter à cheval, s'endurcir au froid ou à la chaleur, pratiquer l'escrime. Le peu d'intérêt pour l'athlétisme se marque à Rome par l'existence d'un unique stade public construit sous le règne de Domitien. Les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques est le nom moderne attribué à la plus fameuse des 4 grandes fêtes nationales grecques, célébrées une fois tous les 4 ans à Olympie. Leur invention est attribuée à plusieurs personnages, Héraclès, Zeus ou Pélops. Fête locale, sans doute au début, elle prend de l'importance et d'autres compétitions lui sont adjointes. Opposant des athlètes venus de la Grèce entière, les Jeux sont traditionnellement une période de trêve. C'est à partir de 776 avant Jésus-Christ, avec la victoire de l'Éléen Choroébos, que nous commençons à avoir de véritables informations sur cette cérémonie et que l'histoire retient les noms des premiers champions olympiques. En 388 avant Jésus-Christ est institué le serment olympique pour mettre fin aux tricheries que sont le dopage et la corruption. Sont ainsi précisées les qualités des participants. Ils doivent entre autres avoir la nationalité grecque et être de sexe masculin, ainsi que les règles à respecter. En 393 après Jésus-Christ, sous la pression de la morale chrétienne, l'empereur romain Théodose Ier abolit les Jeux olympiques jugés trop païens. Et il faudra attendre le tournant du XXe siècle et le baron Pierre de Coubertin pour voir renaître cette tradition. Les Jeux du cirque. Dès 146 avant Jésus-Christ, les Romains participent aux Jeux olympiques. Mais avec l'invasion de la Grèce par l'Empire romain au cours de ce 2e siècle avant Jésus-Christ, les Jeux déclinent rapidement. Rome, en fait, ne connaît ni n'apprécie le sport olympique. Ce peuple de conquérants passe sans transition de la discipline militaire aux jeux du cirque et n'a guère de goût pour la lutte désintéressée. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les combats de gladiateurs, à l'honneur depuis la période étrusque, donc depuis le 6e siècle, sont intégrés aux jeux publics romains par Marius. Les jeux, en latin, Munera, peuvent être donnés soit à titre gracieux pour une commémoration quelconque, soit en faisant payer les spectateurs comme simple distraction. L'organisateur loue ses gladiateurs à un entrepreneur. Les combattants peuvent être aussi bien des professionnels aguerris que des novices, des criminels, des esclaves, des prisonniers de guerre ou des hommes libres sans distinction ethnique ou sexuelle. Le gros des troupes est cependant formé par des hommes de naissance servile et des prisonniers de guerre originaires de contrées lointaines. Les combats de femmes existent également. Extrêmement rares, ils n'en sont que plus recherchés. Le gladiateur fait le serment de respecter les règles du combat devant un magistrat. Du point de vue des combattants, on distingue des types variés. Il y a le rétiaire, qui est juste armé d'un trident et d'un filet. Il combat contre un adversaire équipé d'un casque, d'un bouclier, d'une épée et de jambières. Le thrace porte une épée recourbée. Il y a également le samnite et le gaulois. La règle voulait qu'on oppose deux types différents lors du combat. Les jeux sportifs du Moyen-Âge à la Renaissance. À peu d'exceptions près, le sport du Moyen-Âge est plus spontané et moins hautement organisé que celui des temps modernes. Les amusements médiévaux sont le fait du collectif, du groupe. On n'y trouve pas, comme aujourd'hui, l'esprit de performance et de compétition. Les deux principaux jeux médiévaux sont la paume, connue dès le XIe siècle en France, et la soule, appelée aussi chole, qui peut être considérée comme l'ancêtre du football ou du rugby. Les XVIIe et XVIIIe siècles voient un net recul des activités sportives. Les nobles s'en détournent, préférant l'hédonisme à l'effort et à la discipline. Le divertissement et le plaisir sont davantage recherchés. Montesquieu condamnait dans ses considérations cette attitude, recherchant la facilité. Nous n'avons plus une juste idée des exercices du corps. Un homme qui s'y applique trop nous paraît méprisable par la raison que la plupart de ces exercices n'ont plus d'autre objet que les agréments, au lieu que chez les anciens, tout jusqu'à la danse faisait partie de l'art militaire. La naissance du sport moderne. Le sport, tel que nous le définissons aujourd'hui, est une acquisition récente. Le mot n'apparaît pour la première fois dans le dictionnaire de l'Académie française qu'en 1878. L'apport de l'Angleterre dans cette nouvelle conception de l'activité physique est considérable. Grâce à elle, l'athlétisme, le cross-country, le rugby, le football, le hockey, l'aviron, la boxe et le tennis s'implantent durablement dans les cultures nationales et de façon quasiment mondiale. La naissance du football. L'ancêtre du football se trouve peut-être en Chine ancienne, où les soldats pratiquent un jeu appelé kujou avec un ballon rond, consistant à jongler et effectuer des passes. C'est alors un simple exercice d'entretien physique pour militaires. Mais c'est en Angleterre qu'est pratiqué pour la première fois en 1747 le folk football, c'est-à-dire le football du peuple, et ce dans les public schools comme Eton, qui sont des collèges privés. C'est grâce à Thomas Arnold, qui l'assimile au système éducatif, que ce jeu se développe. Sa diffusion est facilitée par l'organisation sportive des collèges et universités. Les différents sports sont strictement réglementés, pour la première fois en Angleterre, et ne tardent pas ainsi à être adoptés par d'autres pays. Progressivement, les jeux de ballon s'orientent vers le rugby ou vers le football. La fondation de deux fédérations, la Football Association de 1863 et la Rugby Union en 1871, consacre les règles particulières à chacun des deux sports. La naissance de la boxe anglaise. La boxe figure aussi bientôt parmi les sports qui conquièrent les Anglais. Dès 1719, un établissement dirigé par James Figg ouvre ses portes et organise la pratique de sports de défense tels l'escrime, la canne et tout particulièrement la boxe anglaise. Néanmoins, c'est son successeur, Jack Broughton, qui réglemente sommairement celle-ci en 1743 dans une publication intitulée « London Prize Ring Rules ». Quelques années plus tard, en 1747, il invente les gants de boxe, prenant conscience que trop de brutalité dans les combats n'est pas ce qui plaît le plus à un public plutôt aristocratique. Le 8e marquis de Queensberry met au point de nouvelles règles en 1865. La spécificité de la boxe anglaise est de porter les coups au visage et sur le corps, au-dessus de la ceinture, avec des gants homologués. Quatre fédérations, aujourd'hui concurrentes, se partagent la boxe anglaise professionnelle. La WBA, l'IBF, la WBC, la WBO. Le sport au XXe siècle. Le sport qui connaît à partir de la Première Guerre mondiale une progression extrêmement rapide pour s'universaliser ces 30 dernières années est décrit le plus souvent comme un domaine majeur de la culture européenne, une pièce maîtresse de la stratégie politique et économique. Au cours du XXe siècle, il a été récupéré par Hitler comme une arme de propagande du régime nazi, de même que par tous les systèmes totalitaires. La Coupe du monde de football, jouée et gagnée par les Italiens en 1934, est par exemple dédiée au Duce Mussolini. Les préparatifs des Jeux de Berlin en 1936 divisent les sportifs, quant à ceux qui veulent y assister ou pas. Les Jeux ont finalement lieu à Berlin comme prévu, car ceux qui les boycottent sont peu nombreux. Ainsi, 4000 athlètes de 49 pays, représentant de 23 disciplines, sont présents. Mais voyons d'un peu plus près comment la tradition des Jeux olympiques a repris vie dans l'histoire moderne.